CJSO 101.7. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Salut, on assiste à un peu moins de 10 mois des élections au Québec, à un passionnant le rebrassage des cartes, les courses au leadership du Parti libéral, de la Coalition Avenir Québec, qui auront, en fonction du rendez-vous électoral d'octobre, un ou une nouvelle chef. Et autre modification, transformation, le comté de Richelieu qui comptera, avec les modifications à la carte électorale, une nouvelle ville sur son territoire, Contrecœur. Quelle influence tout ça va avoir sur l'exercice démocratique et le vote? J'en discute ce midi avec le politologue Denis Marion, la journaliste... Ben c'est vrai. La journaliste Annie Bourque, vous n'allez pas tous contester les titres que je vous donne, j'espère. Les ex-députés Albert Kelfa, Sylvain Simard et Nathalie Rochefort, et l'actuel représentant de Richelieu à l'Assemblée nationale, Jean-Bernard Raymond. Ai-je besoin de vous dire de rester bien branché à cette antenne? Je ne pense pas. Alors, à tout de suite.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La santé mentale a mille et un visages. Trouver l'équilibre qui nous convient prend du temps et du courage. Chez Santé mentale Québec Pierre de Sorel, on croit que c'est tous ensemble qu'on construit une société heureuse. Avec une variété de cours et d'activités, mais aussi des outils qui sont mis à la disposition de tous. Visitez la page Facebook Santé mentale Québec Pierre de Sorel. Parce que 100% des gens ont une santé mentale. Comment va la tienne?
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Heureusement que vous n'entendez pas tout ce qui se dit pendant les pauses de la part de l'animateur. Deux nouvelles qui se sont inscrites dans l'actualité la semaine dernière annoncent un passionnant rebrassage des cartes à 10 mois des élections québécoises, la démission de François Legault. Le redécoupage électoral, en vertu duquel le Contrecœur s'ajoute à la circonscription de Richelieu, s'additionne à ce paysage politique en pleine métamorphose, la course au leadership libéral et Québec solidaire aussi, on en parle moins, mais qui a aussi deux nouveaux co-porte-parole, Ruba Gazan et Sol Zanetti. Pour parler de l'influence de tout ça sur l'exercice démocratique et le vote, je reçois à l'émission ce midi Denis Marion, Annie Bourque, les ex-députés Albert Kelfa, Sylvain Simard et Nathalie Rochefort et l'actuel représentant de Richelieu à l'Assemblée nationale, Jean-Bernard Aymon, m'entourent en studio et je vais leur parler en deux temps, jusqu'à 12h30 et ensuite de 12h47 à 13h. Annie Bourque, Nathalie Rochefort et Denis Marion. Entrez, Madame Rochefort, entrez, Madame Rochefort. J'aurai au téléphone messieurs Aymon, Kelfa et Simard entre 12h30 et 12h45. Alors, donc, bonjour officiellement à vous trois, maintenant que vous trois êtes là. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Bonjour, Mme Bourque. Bonjour, Mme Rochefort. Mais c'est votre microphone.
Oui.
Ensuite, ah, parfait.
Ça va être mieux.
Très, très bon. Voilà. Très, très bon. Bon, je vais d'abord faire appel à votre mémoire politique, à tous les trois. Croyez-vous que ce soit une situation inédite, ça, autant de courses au leadership à si peu de temps d'une élection, Parti libéral, CAQ et il n'y a pas si longtemps, QS? Est-ce que c'est assez inédit? Denis Marion?
Bien, d'abord, pour commencer, il faut rappeler qu'on a de nombreux partis. On a jusqu'en 2018 ou à peu près, il y avait moins de partis à l'Assemblée nationale.
C'était presque le bipartisme.
Exactement. On a été jusqu'à la fin des années 2000 avec les deux partis qui occupaient toute la scène, le Parti libéral du Québec puis le Parti québécois. Là, on se retrouve dans une autre situation, ça c'est certain. L'autre aspect, évidemment, c'est que autant de changements se passent à moins de un an d'élection générale.
Est-ce que c'est inédit, tu penses?
J'essaie de penser. Tu sais, on a eu des changements de gouvernement, là. Tout à l'heure, on glissait un mot sur le départ de René Lévesque en 85, son remplacement par Pierre-Marc Johnson. Quand Robert Bourassa a quitté en 83, 2013, si je ne m'abuse, il était remplacé par Daniel Johnson quelques mois avant les élections, mais c'était un
oui,
parti.
Oui, le chef d'un des partis. Exactement. Pas tous en même temps comme ça.
Mais toi, autant, toi, c'est beaucoup.
Toi, Nathalie Rochefort, est-ce que tu as souvenir d'une situation?
Écoute,
là,
je milite politiquement depuis pratiquement 40 ans, puis je n'ai pas souvenir de ça non plus. Mais je n'ai pas souvenir non plus d'avoir eu autant de gens qui ont quitté un parti politique pour siéger comme indépendants.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est,
ça, c'est énorme.
Oui, oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est dans le paysage. C'est particulier. Ils sont plus nombreux qu'il y a de députés de QS maintenant, les indépendants.
Oui, en fait, ils sont à veille de former un propre parti.
Ils pourraient former leur propre parti, oui, exactement. Annie Bourque, toi, tu es beaucoup plus jeune que
ben
nous
oui,
trois.
Ben oui, moi, je veux juste vous dire que depuis ma jeunesse, je suis la politique. Je veux vous dire que j'ai rencontré Robert Bourassa alors qu'il était premier ministre là, autour de 1987. J'étais jeune journaliste au Super Hebdo de Montréal, juste pour vous dire comment je suis là.
Mais tu peux remonter quand même à pas mal loin,
c'est
puisque
ça,
tu peux remonter à Robert Bourassa.
J'étais, c'est ça, jeune journaliste, je commençais à l'époque, là, juste pour vous dire que j'ai toujours été passionnée de politique et je suis honorée que vous m'invitez sur ce
panel. Alors, tu n'as pas plus que nous autres de souvenir là, d'un tel portrait à si peu de mois d'une élection. Comment vous avez trouvé le discours d'adieu de M. Legault?
Moi, j'ai envie d'en parler deux secondes. Il y a deux choses qui m'ont frappé.
Je te demande
là-dessus. Hein, ouais. Oui, c'est ça. Deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est le discours relativement serein de quelqu'un qui, après deux mandats et quelques mandats dans la vie politique, là, ça, il est là depuis longtemps, annonce très sereinement que finalement, il a pris la décision pour laquelle plusieurs s'attendaient qu'il prendrait éventuellement. Là.
C'est une belle tournure de phrase.
Mais il nous a quand même un peu surpris. Mais oui. C'était la fenêtre. Là, hein, c'était en janvier ou jamais. Là, c'était à ce moment-là. L'autre chose qui m'a beaucoup impressionné, puis beaucoup de mes amis autour de moi m'en ont parlé, c'est la qualité des réactions des chefs de l'opposition. Chacun a dit, évidemment, on ne partage pas tout le...
Mais non, mais Denis, ça t'a surpris.
Oui, ça m'a surpris.
Mais non, il y a deux moments dans la vie où on est fin et beau, c'est quand on meurt ou quand on quitte une fonction.
Non. Sais-tu que dans le contexte actuel où on a un voisin aux États-Unis qui n'arrête pas d'insulter tout le monde et de créer... Non, alors, c'est très important.
Mais c'est pas pareil, c'est un malade.
Les Québécois, quand ils ont entendu les chefs de l'opposition dire « on n'est pas d'accord avec lui, mais personne ne peut remettre en question son engagement vis-à-vis du Québec, puis le cœur qu'il a mis à jouer son rôle. »
Et l'amour pour les Québécois,
oui,
c'est ça.
Oui, les gens ont dit « mon Dieu, que ça fait du bien de voir qu'au Québec, on est encore capable
d'avoir ça. » OK, quand on se compare avec les voisins américains, Nathalie?
En fait, moi, ce que je remarque, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est très dans notre culture. À nous, mais je ne me souviens pas d'avoir entendu un ancien chef se faire bitcher par ses collègues à son départ.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans le contexte.
C'est vraiment le contexte qui a fait qu'on le remarque.
Nous sommes d'accord si tu parles du contexte.
Oui, parce que c'est ça, c'est qu'avant, on ne le remarquait pas, mais
c'était
la norme.
Ben non,
c'était
normal,
oui.
Exactement.
Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il a parlé de ses fils, de l'impact que la politique avait eu sur ses enfants. Et ça, on n'en parle jamais. De l'impact que la vie politique, la vie publique peut avoir sur les jeunes.
Sur les familles.
C'est pas simple, là.
C'est peut-être inévitable, ce départ. C'est une question.
Mais... Moi, je pense que oui. Quand on regarde Joe Biden aux États-Unis, juste une comparaison, ou Justin Trudeau ici, plutôt en politique, il fallait réellement. Là, les sondages, j'ai pris des notes, sont passés là, de 76 % du taux de satisfaction juste après la pandémie à 11 % en décembre. Vous imaginez d'être dans la peau de M. Legault? C'était la décision à prendre. Ça, je pense qu'on est unanime.
Mais en même temps, la décision, il devait la prendre dans la mesure où les gens autour de lui ont commencé à lui dire « il faudrait que vous y pensiez sérieusement ». Si autour de lui, tout le monde avait dit « vas-y François, bats-toi », etc., je ne suis pas sûr qu'il l'aurait pris. Parce
ça
que
commençait à jaser au caucus.
Ses conseillers l'ont rencontré avant les fêtes, selon ce qu'on a entendu. Là, les conseillers l'ont rencontré avant les fêtes pour lui dire « écoute, il faut vraiment que tu réfléchisses à ça, il faut que vous réfléchissiez à ça ». Puis là, effectivement, au caucus, il commençait à y avoir de la satisfaction. Comme dit Annie, 11 % là, c'est pas beaucoup.
Aurait-il dû quitter plus tôt? Est-ce qu'il met son parti dans le trouble en le faisant si près du scrutin?
Moi, je te dirais qu'il risque d'avoir une lune de miel avec un nouveau chef à la CAQ. Un peu comme on le voit avec Carney. La game vient vraiment de changer pour l'automne.
Clair,
On s'entend que...
Alors, qui t'entend, il donne moins de temps à son successeur à se construire des ennemis.
Se mettre les pieds dans les plats.
Ah, je l'avais pas vu comme ça. Là, en même temps, il aura moins de temps pour se faire connaître si elle n'est pas bien connue.
Mais regarde qui va arriver comme chef du Parti libéral. Charles Millière, probablement, sera élu. On va en parler. Mais ce que je veux dire, c'est tout le monde a peu de temps, là. D'ici le mois d'octobre, anyway. Les nouveaux... Tu as raison, tout à l'heure, tu soulignais le fait qu'il y avait deux nouveaux porte-parole de Québec solidaire. Eux aussi, ils ont intérêt à se faire connaître, etc. Donc, tout le monde est au même point. Et il y aura toujours l'avantage pour la personne qui remplacera M. Legault d'être le premier ministre ou la première ministre.
Geneviève Guilbeault a fait la même chose que M. Legault dimanche. Sonia Lebel, hier! Oui, Moi, ça m'a jeté à terre.
Moi aussi, Sonia Lebel, ça m'a surpris.
Elles ont annoncé, donc, qu'elles partaient toutes les deux. Bon, tu me dis que tu es surpris pour Sonia Lebel.
Oui, je pense que Geneviève Guilbeault, dans le contexte actuel, pouvait probablement pas poser sa candidature, même si elle aurait aimé le faire.
Son étoile avait beaucoup parlé.
Effectivement. Ouais. Et elle a dit... Je ne mets pas fin à ma carrière politique, je prends une pause, quelque chose comme ça. Là,
oui, hein, oui.
Dit,
ouais,
puis elle a des jeunes enfants. Elle a des jeunes enfants,
tout à
surtout.
Fait. Puis elle est jeune. Et donc, donc c'est moins surprenant. J'étais moins surpris d'entendre. Mais Sonia Lebel, j'avoue, compte tenu du respect dont elle jouit dans la population chez elle, puis chez les commentateurs politiques au parti chez elle.
Mais ça n'enlève pas le départ de Sonia Lebel, ça n'envoie pas un très mauvais signal, le signal que le bateau coule, puis on ne pourra pas le patcher. Attends pour le scrutin.
Puis les gens quittent le navire. Quand le bateau coule, qu'est-ce qu'on le voit dans les compagnies? Moi, j'écris des articles pour la Fédération des chambres de commerce du Québec. Le titre, pourquoi les talents quittent les navires? On le voit parce que ça va mal. Puis moi, on parlait de M. Legault tantôt, un grand-papa qu'on aimerait aller prendre une bière. On est tombé en amour avec lui, je pense, le Québec. Et là, du jour au lendemain, il part. Qu'est-ce qui va se passer au sein de son équipe? La dissension qui va supporter qui? On commence à voir les premiers appuis pour Christine Fréchette, qui est méconnue du grand public. Je demande aux gens...
ils savent pas.
Exactement. Non. Puis on parle aussi de Simon Jolin Barrette, qui est le dauphin pratiquement de M. Legault. On va bien voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est toute une course qui s'en vient. Là. Oui.
En fait, celui qui est le plus connu dans tous les chefs potentiels actuellement, c'est Éric Duhaime. Si on regarde froidement, là...
PSPP, quand même.
Parce qu'il fait des vagues.
Les gens connaissent son nom. On aime, on n'aime pas.
Je comprends ce que tu veux dire. Intéressons-nous à ton parti, Nathalie, le Parti libéral, avant de parler de M. Milliard. Un mot sur la chute de M. Rodriguez. Est-ce qu'elle est ingrate? Est-ce qu'elle est méritée, cette chute-là? Qu'est-ce que tu en dis?
Écoute, moi, c'est des gens que je connais depuis pratiquement mon début en politique.
C'est pour ça que je le demande.
Je le connais depuis l'âge de 20 ans. Je trouve que c'est pas mérité. Geneviève, c'était le genre de fille à payer les décorations de Noël au bureau de comté, parce que c'était pas aux électeurs de payer ça.
Tu parles de Geneviève Hein, son ancienne chef de cabinet.
Exact.
Là.
Donc, il y a eu beaucoup de magouilles. On sait pas d'où ça part, mais ça part de l'interne. Il y avait des frustrations suite à la chefferie. C'est d'une tristesse sans fin. On lui a fait la peau, carrément. Et je te dirais que je vais être plate, mais Pablo aurait été sûrement le meilleur pour affronter PSPP en débat. Parce que Pablo, il a un charme naturel. Il a une aisance naturelle en public. Charles Milliard, ça va être à déterminer. Charles, on l'a vu beaucoup dans les milieux économiques. Mais moi, j'ai hâte de le voir en débat sur la lutte à la pauvreté, par exemple.
On se tourne vers Annie Bourque. juste un instant, Denis, parce que... alors, tout indique que celui qui est arrivé deuxième dans la course contre M. Rodriguez, M. Milliard, sera couronné chef. Il a été, en quelque sorte, Annie, ton patron à la Fédération des chambres de commerce. Alors, quel genre de patron était-il? Le leadership que tu lui as vu exercer, est-ce qu'il s'ira bien, ce leadership-là, à une formation politique, tu penses?
Moi, je pense que oui, parce que juste de sa philosophie de dire « moi, j'aime mieux perdre que de gagner », il l'a dit en entrevue à 16h, je me rappelle, je faisais du patin, j'essayais de l'entendre avec Marie-Louise Arsenault. Je préfère perdre que de tricher. Ça vous dit sur la probité de l'homme, de ses valeurs. Puis il connaît les entreprises. Quand j'ai fait des entrevues sur une entreprise à une heure de Lévis, l'entrepreneur me disait, écoute, on l'aime parce qu'il connaît les enjeux, notamment des travailleurs étrangers temporaires. Il connaît les enjeux de chaque région. C'est un gars qui était élevé à Lévis. Sa mère enseignante, son père menuisier.
Mais c'est drôle parce qu'on l'associe aux affaires, mais c'est un pharmacien.
Oui, puis c'est ça, c'est un pharmacien. Ses parents,
c'est un homme d'affaires, un pharmacien.
Oui, je veux dire.
Il est devenu à Uniprix. Il a pris une ascension au sein d'Uniprix pour devenir par la suite président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'est un organisme qui regroupe 126 chambres de commerce à travers le Québec. Donc, il connaît les enjeux.
Mais il reste à être connu. Il reste à être connu du grand public.
Et je suis surpris, Nathalie, que tu dises « Rodriguez avait le casting parfait pour affronter Paul Saint-Pierre Plamondon ». C'est drôle, moi, je trouve que Milliard ressemble beaucoup plus à l'autre.
Oui, il est beaucoup plus jeune. Juste à son apparence, l'âge.
Oh oui, mais ça, si on se base juste sur l'âge, je trouve qu'en même temps, une campagne électorale, ça joue aussi, oui, sur l'économie, mais ça joue sur d'autres enjeux. Et quand on parle d'enjeux sociaux, quand on parle d'enjeux d'immigration, ça tu sais, c'est quelque chose qu'il connaît bien. Puis l'avantage que Pablo avait, c'est en plus, comme fils de réfugiés, il avait changé la donne auprès des immigrants. Ça avait envoyé un message. J'ai une fondation, on accueille 1000 personnes par année.
Dont tu es prêt,
et le message qui a été reçu, c'est « Wow, le Québec, c'est le pays de tous les possibles.
Mm-hmm. »
Et là, dans certains cas, il y en a qui ont reçu le message de « Ah ouais, mais sauf que si on prend trop de place, on va se faire tasser. »
Oh non, je te partage
ce que moi j'ai reçu comme information. Oui, ce que moi j'entends dans mes réseaux.
L'enjeu, c'est que globalement, dans la population, les gens avaient tiré la plug, entre guillemets, à partir du moment où il y a eu la crise avec Marois Risky. Et donc, évidemment, ils partaient avec deux prises. Nathalie, c'était très difficile. Mais il y a un élément, on ne l'a pas nommé encore, mais nommons-le. C'est le changement générationnel.
Mm-hmm.
Si on regarde, là, il n'y aura pas un seul chef qui aura plus que 45 ans, quelque chose comme ça. Là,
ils ont plus que 45
ans. Non, M. Milliard, il a 46 ans.
Vous voyez ce que je veux dire.
Saint-Pierre Plamondon, c'est plus que 45, c'est pas loin.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des gens qui ont fait de la politique active avant 2010, par exemple. Hein? Ce sont des gens qui apparaissent sur la scène publique de façon relativement récente. Donc, tu sais, un des aspects, je pense, qui ont marqué le Québec pendant l'automne, c'est la difficulté qu'avaient les gens à identifier pour qui ils finiraient par voter éventuellement, là. Et donc, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se disait « OK, oui, peut-être que je peux préférer ça, mais je ne suis pas sûr de mon coup, etc. » Il y a beaucoup d'incertitudes actuellement. Et là, on va se retrouver avec de nouveaux leaders. Les gens vont devoir prendre des décisions sur la base de ces nouveaux leaders-là.
C'est ça qui est en balance.
D'une certaine façon. Mais comme disait Sylvain tout à l'heure, il y a quand même pas beaucoup de temps d'ici.
Non.
Et le contexte général va tellement bouger.
Oui. Puis ça va vite à l'émission, comme ça va vite avec la campagne préélectorale. Monsieur Duhaime, lui, quels sont ses défis au Parti conservateur avec le PQ qui s'est mis à courtiser les électeurs de droite?
Bien, je pense que le nouveau parti qui vient de se créer, parti, comment il s'appelle, le conservateur québécois? L'équivalent de Bernier, ça va lui permettre de délaguer ces extrémistes qu'il y avait dans son parti. Peut-être, moi, je verrais peut-être un recentrage dans son cas.
J'ai le sentiment que ça changera pas nécessairement beaucoup de choses. Je pense que ce qu'on va beaucoup analyser au cours des prochaines semaines, c'est qui est où et qui affronte qui. C'est-à-dire, tu sais, on en parlera éventuellement, là, Simon Jomin-Barrette avec Christine Fréchette, par exemple, selon que c'est un ou l'autre, ils vont aller chercher peut-être un petit peu plus chez les libéraux ou un peu plus chez les péquistes.
Ouais.
Puis, tu sais, si effectivement Duhaime va aller chercher du monde où, puis ça va dépendre aussi du chef de la CAQ. Puis là, Milliard, quand il va se mettre à parler plus, puis qu'on va commencer à l'entendre, il va piger.
À savoir ce qu'il veut.
On va savoir aussi tranquillement dans quelle clientèle il va piger. Mm-hmm. Fait qu'on va revoir une reconfiguration, d'après moi, d'ici le mois de mai.
Alors, tous ces changements auxquels s'ajoutent les modifications à la carte électorale que je compte aborder avec vous à 12h47 au retour des entretiens téléphoniques, est-ce qu'ils influenceront de beaucoup tous ces changements ou peu, vous pensez, l'exercice démocratique et le vote? On y revient. On s'interrompt de l'autre côté de la pause des entretiens téléphoniques avec Jean-Bernard Raymond, Sylvain Simard et Albert Kelfa.
La Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires vous présentent la bonne nouvelle économique.
L'accompagnement d'un an offert à une cohorte de 18 étudiantes et étudiants en soins infirmiers du cégep de Sorel-Tracy, toutes et tous des infirmières et infirmiers dans leur pays d'origine qui ont immigré ici, prenait fin le 30 novembre dernier. Embauchés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, les 18 personnes ont joint le centre dans le cadre du projet de reconnaissance des compétences d'infirmières et d'infirmiers recrutés à l'international, financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Elles poursuivent actuellement leur cursus pédagogique et travaillent ou sont en formation au sein du CI3S de la Montérégie-Est. L'Orientec les a accompagnées dans leur installation, notamment en les soutenant dans la recherche de logements, les démarches administratives liées à leur parcours d'immigration, ainsi que l'inscription de leurs enfants à l'école ou en service de garde.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Hyundai Sorel-Tracy est fier de t'annoncer que dès le 31 janvier, tu pourras magasiner en toute tranquillité par un beau samedi après-midi. Oui, oui, Hyundai Sorel-Tracy sera ouvert les samedis. Pour fêter ça, dès aujourd'hui, on t'offre la chance de gagner un crédit voyage de 2 000 $ à l'achat d'un véhicule neuf ou usagé. Tirage sur place le samedi 31 janvier. Certaines conditions s'appliquent.
La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
On assiste à un peu moins de 10 mois des élections au Québec, à un passionnant rebrassage des cartes, les courses au leadership du Parti libéral, de la coalition Avenir Québec, qui auront au rendez-vous électoral d'octobre un ou une nouvelle chef, et puis autre transformation. Richelieu, qui comptera avec les modifications à la carte électorale d'une nouvelle ville sur son territoire, Contrecœur. Quelle influence tout ça va avoir sur l'exercice démocratique et le vote? Je sonde sur ces questions. Deux ex-députés de Richelieu, Sylvain Simard et Albert Kelfar, mais d'abord l'actuel député de Richelieu, Jean-Bernard Raymond. Bonjour, M. Aymon.
Bonjour, Sylvain. Je salue vos trois analystes également.
Ils vous saluent eux aussi. Dites-moi d'abord, comment c'est... humainement pour vous de voir M. Legault tirer sa révérence parce que vous étiez à ses côtés quand il a fondé ce parti. Comment vous vivez son départ?
J'ai reçu l'annonce du départ de M. Legault, Sylvain, avec beaucoup d'émotivité. Vous l'avez dit, là, moi je suis un membre fondateur du parti. Si je me suis lancé en politique en 2012, ben, en grande partie grâce à lui et son leadership. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a accordé sa confiance et qui m'a donné l'élan nécessaire pour m'impliquer. Et ben, pour tout ça, je veux lui en être reconnaissant pour le restant de mes jours. Mais moi, j'ai vu quelqu'un, un premier ministre très serein. Je pense que c'est Denis qui le disait tantôt lors de son annonce, l'annonce de son départ. Quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de grandeur et d'abnégation. Je retiens son amour sincère pour le peuple québécois. Puis il y a un bilan qui est... C'est assez impressionnant. Puis je disais à quelqu'un le week-end dernier là, que, tu sais, vous savez, c'est cruel quand on quitte. Là, il y a les bilans, il y a des bons et des moins bons points qui ressortent. Mais moi, je pense qu'une fois que les éphémères poussières des reproches vont seront retombées, ça prend des mois, parfois des années, bien, l'histoire va retenir un grand homme qui aura donné toute son énergie, son cœur aux Québécois et aux Québécois.
Je vous demandais, Jean-Bernard, en décembre, vos intentions à l'égard du scrutin d'octobre, si vous y alliez ou si vous n'alliez pas vous représenter. Les adieux de M. Legault, est-ce que c'est un élément qui s'ajoute à la colonne des « je m'arrête » ou à la colonne des « je continue » Là, si je fais un plastique Bertrand de moi-même, je vais vous demander « stop » ou encore?
Oui, vous avez une belle référence, Sylvain. Disons que ça ajoute un élément de réflexion, ça c'est certain, mais je vous confirme que je suis encore au même point que lors de notre dernière discussion en décembre, lors de votre entrevue bilan. Je trouve, en tout cas, dans mon cas, il est beaucoup trop tôt pour annoncer quoi que ce soit. Là. On va laisser l'eau couler sous le pont de la rivière un petit peu, puis on va voir pour la suite.
Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez de voir les sondages?
Ah non, 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 c'est une décision que je vais prendre avec mes proches, ma famille. On en a discuté dans le temps des fêtes avec ma garde rapprochée aussi, bien entendu. Puis là, ben, je ne vais pas vous cacher que l'échiquier politique, comme vous en discutez depuis tantôt, est complètement rebrassé. Moi, j'ai toujours la flamme, Sylvain, ça m'anime toujours au quotidien, me lever chaque matin pour défendre les intérêts des citoyens et citoyennes de Richelieu. Alors ça, c'est toujours bien présent. D'un autre côté, je regarde les collègues qui, certaines annoncent qu'ils vont terminer leur mandat, mais ne vont pas se représenter. Puis c'est un processus qui est normal, hein, après deux mandats. Vous le savez, tout comme moi, c'est épuisant, c'est difficile de faire de la politique. Alors, c'est une réflexion qui est normale et nécessaire, mais j'ai pas arrêté celle-ci.
Hein. C'est trop tôt. Est-ce que vous comptez vous commettre en faveur d'une candidate ou d'un candidat à la succession de M. Legault?
Oui, bien sûr. Par contre, je vais attendre que les candidats soient nommés d'une façon officielle. Le temps que les paramètres de la course à la chefferie ne sont pas connus, qu'ils le seront un peu plus tard cette semaine, ben là, le téléphone sonne beaucoup. Hein? On s'arrange que notre cellulaire, les batteries soient bien rechargées parce qu'on a beaucoup de téléphones dans les derniers jours.
J'ai connu ça. Ce rebrassage des cartes politiques, est-ce qu'il va influencer pour la peine, vous pensez, l'exercice démocratique et le vote?
Ben, je crois que oui. On dit que 6 mois en politique, c'est une éternité. Alors, le scrutin est à l'automne prochain. On voit des nouveaux chefs, vous en avez discuté tantôt, dans plusieurs des formations politiques, incluant dans la nôtre. Pour nous, ça va être une nouveauté, parce qu'on n'a pas connu ça, Sylvain, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a pas d'investiture dans notre parti pour être candidat dans les comtés. On n'a jamais connu de course à la chefferie. Moi, je souhaite une course qui va être caquiste, c'est-à-dire pragmatique, sereine, efficace, relativement courte. J'ai déjà observé ce qui s'est passé dans d'autres partis, puis parfois, ça peut être très fratricide, alors c'est pas quelque chose que je souhaite. Puis je suis convaincu qu'il y a quelqu'un avec beaucoup de talent qui va émerger de là. Moi, je souhaite que cette personne-là continue de représenter la troisième voie parce qu'on en a besoin au Québec. Quelqu'un avec un nationalisme affirmé. Puis ben, je vais faire connaître quand les candidatures seront là vers quelle personne je porte mon choix.
Dernière question, Jean-Bernard. Puis là, il reste malheureusement peu de temps pour y répondre. Elle est importante. Là, il y a ce changement de circonscription pour Contrecoeur qui gagnerait celle de Richelieu, à moins que la Cour suprême accepte d'être saisie de la contestation là, par le procureur général du Québec. Là. Comment vous réagissez à ça, Contrecoeur dans Richelieu?
Ah, moi, je l'accueille favorablement. Là, je joue de la ville de Contrecoeur à la circonscription de Richelieu. C'est une décision qui est conforme au rapport de la commission de la représentation électorale. Ça va permettre d'assurer, vous savez, les paramètres que la commission étudie, c'est pour assurer une meilleure représentation équitable du vote de chaque Québécois. Alors, c'est vrai, par contre, qu'au plan administratif, ça peut être plus simple lorsque l'ensemble des municipalités d'un comté se retrouvent au sein de la même MRC, par exemple. Mais on entretient déjà de nombreuses affinités.
Alors, vous êtes prêt à faire le grand écart, s'il faut faire le grand écart après votre réélection?
Tout à fait.
D'accord. Merci, Jean-Bernard Raymond.
C'est un plaisir. Au revoir. À très bientôt.
Bonjour. Nous réalisons, nous, le grand écart, un écart transatlantique pour rejoindre chez lui en France celui qui a été pendant une vingtaine d'années député de Richelieu, Sylvain Simard. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Sylvain. Bonjour aux autres.
La distance qui vous sépare du Québec vous aura pas empêché de voir en direct François Legault annoncer qu'il quittera son poste de premier ministre aussitôt que son parti va lui avoir choisi un successeur ou une. Comment vous avez trouvé son discours?
Ben, écoutez, je vais pas faire comme... je pense que c'est Denis tout à l'heure qui disait que quand des gens s'en vont, tout le monde est d'accord. Mais honnêtement... Il a été serein, il a été soulagé. Je pense que on sentait un soulagement. Les derniers mois ont dû être extrêmement difficiles pour lui. Et puis, il sort un peu épuisé de 7 ans de vie politique extrêmement intense à la tête du Québec. Et vivre, la baisse tellement forte de popularité, l'agressivité de plus en plus grande autour de lui, ça a dû être extrêmement difficile. Je trouve qu'il a fait ça plus qu'honorablement. Voilà quelqu'un qui, je l'ai connu à ses tout débuts en politique, à son arrivée, c'est quelqu'un qui s'engage totalement, qui croit en ce qu'il fait. Il a créé quand même de rien un parti. Je trouve que on doit saluer cette participation démocratique si importante et saluer en François Legault, un premier ministre qui a compté, on se rappelle la COVID notamment, à quel point la population du Québec faisait cœur autour de lui. Alors, voilà ce que j'ai à dire de ces adieux.
Je fais appel à votre mémoire politique, Sylvain Simard. Un tel rebrassage de cartes là, à 10 mois d'élection, course au PLQ, course à la CAQ et encore récente à QS, est-ce qu'on a vu ça souvent?
Pas souvent, évidemment, mais comme le faisait remarquer quelqu'un, dans un contexte à deux parties, c'était peut-être plus simple. Mais à chaque fois, ce sont des périodes très courtes. Je me souviens de Daniel Johnson qui a eu quoi 3 mois pour tenter de se faire élire, évidemment échoué. Je me souviens aussi de Pierre-Marc Johnson dans la même situation en 1984 qui a essayé pendant quelques mois de donner un souffle nouveau, mais finalement, a vu la défaite arriver. Ça ne laisse pas beaucoup de temps. Et c'est quand même assez bizarre, en plus, que cette opposition, qui est composée de plusieurs partis, se trouve presque entièrement en crise à tous les niveaux. Le Parti libéral, c'est pas juste la recherche de nouveaux chefs, c'est le choc du départ du dernier dans des conditions et dans des circonstances extrêmement dérangeantes, en tout cas publiquement, en termes de communication en tout cas. Donc c'est une situation où l'éléphant dans la pièce, puisqu'il faut bien le dire, il y a des sondages. Ces sondages montrent que les gens commencent à se coaguler en assez grand nombre autour du Parti québécois et de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais il y a 6 mois, quelqu'un le faisait remarquer, en politique, c'est l'éternité.
Oui, mais est-ce que ça va durer? Pas besoin d'être du jour savoir là, pour prédire, que sans se tromper, que Charles Millière sera élu, peut-être même couronné là, pour diriger le Parti libéral. Est-ce que vous souscrivez au point de vue de plusieurs analystes qu'il a le parfait casting pour affronter Saint-Pierre Plamondon?
Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est d'abord que l'espoir d'une troisième voie qui a longtemps été soulevé au Québec et qui a été tenté par François Legault, ben, c'est un échec. Honnêtement, là, il n'y a pas de troisième voie qui fonctionne. Le fédéralisme canadien n'a pas bougé d'une fraction de millimètre depuis l'arrivée de cette troisième voie. Donc ça, c'est dans le contexte plus global là, des grandes orientations politiques, il y a un déplacement qui se fait. Est-ce que M. Millière reprendra les anciennes d'autrefois où le Parti libéral n'existe que contre le PQ et contre la souveraineté du Québec? C'est possible qu'il joue cette carte-là, mais je pense que les gens sont de plus en plus insensibles à ça. Ils vont lui demander du contenu. Comment peut-il réussir en si peu de temps à créer vraiment un parti, un gouvernement solide, alors qu'il n'a l'appui actuellement que d'à peu près un Québécois sur 10.
Ouais. Sylvain, c'est vraiment trop peu là, de vous dire ça. 30 secondes sur le redécoupage électoral qui ferait passer contre-cœur dans Richelieu. Comment vous voyez ça?
Moi, j'en suis très heureux. C'est un défi, c'est vrai, parce que ça rééquilibre un peu, ça transforme l'équilibre entre les municipalités rurales et les villes, mais en même temps, c'est une chance inouïe pour Richelieu, c'est-à-dire, voilà une population qui se joint à nous, qui est prospère, avec l'arrivée dans les prochains mois, les prochaines années, de milliards d'investissements autour du port de Contrecoeur. C'est, il me semble, un changement naturel. Moi, je me souviens de Saint-Laurent-du-Fleuve. On n'est pas... Contrecoeur et Sorel, c'est pas des villes lointaines.
Non, ce sont de très proches voisines. Merci beaucoup, Sylvain Simard, de vous être prêté à cet entretien. Ça fait toujours plaisir. Merci.
À bientôt, au revoir.
À bientôt. D'un ex-député à l'autre, Albert Kelfa est avec nous après avoir entendu Sylvain Simard. Alors, je me tourne de son côté là, pour une réaction à ce rebrassage des cartes, de la carte électorale et des cartes politiques à moins de 10 mois du scrutin. Bonjour, Albert.
Bonjour, M. Rochon. Ça va bien?
Ça va bien. Un remue-ménage de cette ampleur-là, là, deux courses à la chefferie, est-ce que c'est une situation à peu près inédite à si peu de temps d'une élection, là, selon ta mémoire politique à toi, là?
Selon ma mémoire, c'est jamais vu ce remue-ménage. Mais j'espère que le citoyen, le Québécois et la Québécoise vont être les gagnants à la fin.
Le PQ trône nettement à l'avance là, dans les sondages. Est-ce que ce rebrassage des cartes politiques suite auxquelles le Parti libéral puis la coalition Avenir Québec auront un ou une nouvelle chef quand en octobre on sera appelé à voter, est-ce que ça pourrait venir bouleverser considérablement l'échiquier, tu penses?
Probablement, parce qu'actuellement, le Parti québécois est seul sur l'échiquier politique. Il a un chef, il a un programme, il a une orientation, il a une façon à présenter ses affaires, gouverner. Puis de plus, il a un échéancier. Tandis que les autres partis, je prends le Parti libéral, avec ce que nous avons vécu avant la période des fêtes, c'était catastrophique pour le parti, pour la coalition. C'était une autre dimension avec le départ de la pièce maîtresse qui est le chef du parti, M. Legault. Ça a changé complètement la donne.
Tu as représenté Richelieu sous l'étiquette du Parti libéral. Je reviens au Parti libéral de 85 à 94. Tu es demeuré attaché à ce parti-là, je dirais presque actif, je sais même pas pourquoi je dis presque, actif à ce parti-là. Comment as-tu vécu le départ de M. Rodriguez et le contexte de ce départ?
Très difficile, parce que Pablo, je le connaissais très bien. Puis c'est un gars honnête, c'est un gars travaillant, c'est un gars attaché aux valeurs du Québec. J'ai jamais compris comment c'est arrivé tout ça. C'était sur des allégations, peut-être c'est les personnes autour de lui qui ont voulu faire d'excès de travail, mais lui-même était la victime de la volonté de bien faire. Mais ça a affecté énormément, puis ça m'a affecté aussi de la façon de voir le parti tomber, sombrer dans cette situation. Parce que le parti que j'ai connu,
oui,
c'est pas la même vision que le peuple, la population le regarde.
OK. Pas besoin d'être Jojo Savard, Albert, pour prédire sans se tromper que Charles Milliard là, sera élu, peut-être même couronné pour diriger le parti. Est-ce que tu souscris au point de vue qu'il a le parfait casting pour affronter Saint-Pierre Plamondon?
Remarquez bien, je le connais très peu. C'est un jeune avec de nouvelles visions. Tout ce que je souhaite qu'il fait rêver la population, puis proposer à la population un avenir meilleur, un avenir avec une stabilité, un avenir avec des emplois pour les jeunes, un avenir pour la qualité de la langue, un avenir pour l'économie. Mais il doit proposer ça. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vu proposer quelque chose qui va faire vibrer la population, vibrer les membres dans un premier temps et vibrer la population. Peut-être il a des cartes en manche pour le moment, je ne l'ai pas vu.
OK, secondes, Albert. Écoute, il nous reste que quelques secondes, puis je vais aborder ça, le redécoupage de la carte électorale contre-cœur dans Richelieu. Est-ce que ça fait du sens?
C'est catastrophique.
Ah oui? Tu n'y crois pas, toi? Tu penses que ce n'est pas une bonne idée?
Non. Parce qu'il faut avoir une appartenance. Moi, j'ai toujours plaidé un comté à un MRC. Mais c'est pas le cas. À l'heure actuelle, ça va être 3 ou 4 MRC à l'intérieur du comté. Il n'y aura pas de vraie appartenance à la vie d'un comté. Le comté doit être uniforme.
Albert, je dois déjà te remercier pour cet entretien. Merci beaucoup de t'y être prêté.
Ça me fait plaisir, M. Rochon, mais vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez du découpage?
Oui, OK. J'y reviendrai certainement. Merci, Albert, après la pause. On reprend les échanges en studio à la lumière de ces conversations téléphoniques. M'entoure Annie Bourque, Nathalie Rochefort et Denis Marion. À tout de suite.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi. Ici David Gauthier. Dans les conseils Brunet sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds. Du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné? Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi.
Les conseils Brunet. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Alors, je retrouve pour ces dernières 10 minutes mes amis Denis Marion, Nathalie Rochefort, Annie Bourque. Il vous a été agréable d'entendre messieurs Simard, Kelfa et Aymon?
Bien sûr, c'est très intéressant d'avoir le point de vue de gens qui...
On n'a pas su si monsieur Aymon viendrait, hein?
Ben non. Ben, il a dit qu'il prendra sa décision au moment où il sera prêt à l'annoncer. En fait, il annoncera sa décision au moment où il l'aura prise.
Oui, puis je pense que le fait d'avoir un nouveau chef, ça va peut-être influer aussi sur sa décision.
Oui. Moi, j'ai hâte d'entendre aussi... avec quel candidat il va vouloir aller. Il va sûrement prendre position dans le...
Il n'est pas réputé appartenir, puis là, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais à l'aile particulièrement nationaliste québécoise. Je me souviens, les premiers temps qu'il était député, il avait même les deux drapeaux derrière son bureau, ce qu'on voit peu souvent chez les députés québécois. Je pense que ce n'est plus le cas maintenant. Alors... Pour cette raison, je m'étonnerais de le voir avec Simon-Jolin Barrette, mais je peux complètement...
Suzanne Roy, la députée de Verchères, notre voisine, qui était députée de contre-cœur, justement, là, entre autres, elle a décidé d'appuyer Simon-Jolin Barrette.
C'est peu étonnant,
ce qui est peu étonnant compte tenu de l'histoire de Suzanne Roy.
C'était une souverainiste. Là, tout à fait. Peut-être l'est-elle encore plus secrètement maintenant. Ce dont on n'a pas parlé ensemble, c'est du redécoupage électoral qui ferait passer dès octobre contre-cœur d'Henri Richelieu, à moins que la Cour suprême entende des statuts là, sur la contestation du procureur général du Québec. Il faudrait qu'elle fasse ça vite, fait que c'est loin d'être certain. Comment vous avez entendu, messieurs Aymon et Simard, s'en réjouir, M. Kelfa s'en désoler. Vous autres, comment vous accueillez ça, cette perspective que contre-cœur joigne Richelieu? Nathalie, as-tu le goût de commencer?
Ben oui, je vais commencer. En fait, je partage tout à fait le point de vue d'Albert Kelfa, c'est-à-dire que pour moi, une ville comme contre-cœur devrait être, va être le centre de son univers socio-économique, si on veut. Et là, ma grande peur, c'est que Sorel en prend ombrage, soit délaissé, d'une part. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est encore, c'est il y a combien de villages dans Richelieu? 17 de mémoire?
17 municipalités.
17 municipalités. Donc, des petites municipalités vont être encore 15. Une fois... 15. Vont être encore une fois plus mis de côté, parce qu'il va y avoir de l'ombrage, toujours. Et ça, c'est... J'aime pas ça.
Denis?
Oui, moi, je le vois différemment. Dans le contexte de l'évolution de la région, là, avec ce qu'on vit depuis quelques années dans les perspectives de développement... le lien entre Sorel-Tracy et Contrecoeur est beaucoup plus étroit et sera encore plus étroit qu'il ne l'est actuellement, entre autres avec l'arrivée du fameux port de Montréal qui va s'installer à Contrecoeur, le hub logistique qui va s'y raccrocher, les entreprises. On a ArcelorMittal à Contrecoeur, on a Rio Tinto ici, on a d'autres entreprises de la métallurgie, évidemment, là, mais rappelons-nous qu'au tout début, lors de la création des MRC dans les années 80, il avait été question que Contrecoeur fasse partie de la
Contrecoeur a déjà fait partie de la circonscription de Richelieu en passant. En 70, c'était le cas.
OK. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, il y a un enjeu actuel d'identité. Qui demeure que les gens qui s'installent à Contrecoeur viennent beaucoup plus du sud que du nord. C'est-à-dire que la nouvelle population de Contrecoeur, elle est beaucoup plus originaire de Verchères, Varennes, Longueuil, etc., que de Sorel-Tracy et la région.
Et même de l'étranger.
Tout à fait. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi une occasion pour la MRC de Pierre de Sorel d'avoir des liens plus étroits avec cette municipalité voisine-là. On parle de temps, là.
Je vais faire un peu de millage sur ce que Nathalie a dit. Ça n'obligerait pas, par ailleurs, j'ai posé la question question comme ça, je pense, à Jean-Bernard, ça n'obligerait pas le député ou la députée de Richelieu à faire le grand écart, là. Puis à être pogné dans beaucoup d'arbitrages entre Contrecoeur et Sorel-Tracy qui vont se disputer la pole position de la circonscription. Mais en plus, on a une mairesse forte, la Contrecoeur,
Maud Allaire. Oui, mais c'est pas comparable. Avec tout le respect que j'ai pour Contrecoeur, qui est une superbe municipalité, honnêtement, puis qui est en développement, qui a augmenté sa population, qui est très, très, très active, très dynamique, etc. Moi, je pense que si on joue correctement comme région notre relation avec Contrecoeur, on va être complémentaire, on va s'appuyer, on va développer notre influence régionale.
Là. Nathalie.
Oui, mais là, on va avoir des guerres de crochets. On a trois MRC. La solution, ça serait peut-être aussi de fusionner ces fameuses MRC pour qu'ils correspondent au comté maintenant. Parce que la MRC, à la base, sa job, c'est de développer le culturel, c'est de développer l'économie, c'est de développer le social, c'est d'appuyer ce que fait le député. Mais là, avec l'aménagement du territoire. Mais là, avec trois MRC à gérer comme élus, attache ta tuque. Hein.
Un mot là-dessus, Annie, toi?
Ben, écoutez, moi, je rejoins un peu la position de M. Marion, M. Aymon aussi. Je vois que de plus en plus, ma fille va magasiner à Contrecoeur à cause du fameux Starbucks. Moi-même, je vais magasiner de plus en plus à Contrecoeur. Les gens de Contrecoeur viennent au Palais de justice et viennent dans nos centres, notre centre commercial aussi. Je vois pas vraiment, à part... Je comprends ton point de vue aussi pertinemment, le côté administratif aussi. Je comprends celui de Mme Roy qui l'a exprimé en nom.
Oui, c'est pas la même MRC, c'est pas la même police. Contrecoeur, ça fait partie de la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal. Ici,
avec d'autres enjeux.
Rien à voir là-dedans.
Oui, je comprends très bien, mais je pense que dans l'ère où ça va si mal, je pense que j'aime avoir l'optimisme de M. Marion, de travailler ensemble, je pense qu'on pourrait faire ça, en tout cas.
Et c'est quand même, tu sais, il y a 35 000 personnes à Sorel-Tracy et c'est en croissance. Il y a 10 000 personnes à Contrecoeur, c'est aussi en croissance.
Presque 11 000,
Mais ça devient drôlement intéressant avec l'ensemble des municipalités rurales. Mmh. Je suis d'accord avec Nathalie sur le fait que...
Monsieur Fumer de Massuville.
Oui, effectivement. Oui. Il faut que tout le milieu rural ait sa part des choses. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement une contradiction. Là. Je pense si on est capable de travailler dans la même MRC, ville-centre et municipalité plus petite, je pense qu'on sera capable éventuellement. Puis faisons confiance à nos élus. Ça va être intéressant, Sylvain, de poser la question à nos élus municipaux. Vous pensez quoi de ça,
oui,
vous?
Oui, oui,
hein?
Oui.
Comment vous réagissez à la MRC?
Maud Allaire n'est pas entichée par l'idée. Sa réaction est mitigée. Il reste 4 minutes à peu près. On ne sait pas à 10 mois des élections si M. Aymon sollicitera un renouvellement de mandat. Qui sera là dans Richelieu pour le PQ, les libéraux, les conservateurs, Québec solidaire? On ne sait rien. Hein? Tu sais quelque chose, toi?
Et beaucoup plus que ça, ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas non plus comment la situation internationale va évoluer. Oui. On ne sait pas dans quelle situation le Canada sera, et donc le Québec éventuellement, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe, par rapport au Groenland, par rapport au Venezuela, par rapport à Cuba, par rapport à whatever. Là.
Arrête de nous faire peur.
Non, mais je suis très sérieux. Les choses évoluent à une vitesse folle. Mark Carney, il y a quelques
minutes... Oui, mais attends, quelle influence sur le scrutin?
Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que les Québécois ne vivent pas dans une bulle. Les Québécois, quand ils regardent...
Tu veux dire que ça influencera.
Ça va influencer.
Oui, oui.
Et donc, les chefs eux-mêmes, chacun des chefs qui seront à la tête de leur parti, auront à exprimer leur position et ils doivent tenir compte du fait que les Québécois ne voteront pas uniquement lors des élections d'octobre sur les enjeux strictement québécois. Je suis profondément convaincu que les Québécois vont chercher à trouver la meilleure solution dans le contexte dans lequel on est en train d'évoluer de façon...
Je t'écoute, Denis Marion, et je me dis, est-ce que dans ce contexte que tu cites, le référendum que promet Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'indépendance du Québec pourrait finir par lui porter préjudice électoralement?
Je crois qu'il y a une distance actuellement entre la population québécoise et Paul Saint-Pierre Plamondon sur cette question-là. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon aura intérêt au cours des prochains mois à tester. Puis là, je veux que ce soit clair, là, c'est pas juste une question de lecture de sondage. Moi, je pense que c'est une conversation qui doit y avoir avec la population à ce sujet-là. Où en seront les Québécois dans leur perception de ce qu'ils vivent au moment où ils vont aller déposer leur bulletin dans l'urne en octobre, quelque part entre septembre et octobre, là, pour l'élection du 5 octobre. Mm. Puis je suis convaincu que ça va avoir un impact sur le discours et sur la façon dont ils vont présenter leur projet.
Nathalie Rochefort. Ouais.
Moi, je te dirais que la course à la chefferie de la CAQ va vraiment influencer. Christine Fréchette, c'est une analyste politique spécialisée des États-Unis à la base, quand je l'ai connue il y a très, très longtemps. Donc, de Jolin Barrette, avocat reconnu. De notre côté, Parti libéral, Charles Milliard, qui connaît très bien l'économie, mais qui doit se positionner aussi fortement en fonction des personnes plus démunies, que ce soit financièrement ou socialement ou en termes familial. Donc, il y a beaucoup de positionnements qui est à faire.
Donc, si je vous comprends bien, Vianney, je vais te donner la parole. Si je vous comprends bien, les jeux sont loin d'être faits. Les jeux sont, bien que le PQ semble trôner actuellement très confortablement là, quand même dans les sondages, encore davantage quand on regarde l'électorat francophone.
Bien sûr.
C'est pas encore fait. Non, c'est ça.
Les partis québécois, je regardais la carte de Québec 125, c'est presque du bleu mur à mur à l'heure actuelle, mais je vois aussi ma prédiction, je vois une percée du Parti conservateur, notamment Champlain, qui est deuxième actuellement. Ouais. Il y a aussi Portneuf, Nicolas Bécancour, Donald Martel, un homme extraordinaire, un ami d'enfance de la famille, de notre famille, qui est élu là depuis des années.
Mais c'est PQ.
Le Parti conservateur commence à gruger là, des votes. Mais moi, je pense que la personnalité qu'on a besoin dans ces temps d'insécurité, dans ces temps qu'un mégalomane qui est impérialiste aux États-Unis nous menace, on a besoin tellement d'un homme ou d'une femme qui va nous rassembler, qui va avoir du charisme. Ce que je vois actuellement, j'en vois pas tant que ça de charisme. J'en voudrais qu'il nous fasse vibrer, comme
c'est fini.
Dit plutôt...
C'est fini, c'est toute une envolée oratoire à la fin, comme ça.
Des gens qui nous fassent vibrer et qui nous réunissent aussi.
On t'a entendu.
Tout à fait. Tu te présentes?
Oui, on dirait qu'elle va annoncer sa candidature. Merci beaucoup, Annie Bourque. Merci beaucoup, Nathalie Rochefort. Merci beaucoup, Denis Marion. Ce fut passionnant. Puis j'aimerais ça qu'on ait l'occasion de se reparler là, d'ici le scrutin. Je pourrais vous réunir à nouveau.
Si on est parlable.
Vous êtes game?
On est insortable.
Parfait. OK. Fait qu'on va lire ça encore. Merci à Laurent Cournoyer au Standard téléphonique. La semaine prochaine, j'aurai tous les maires et la mairesse de Pierre de Sorel avec moi. À la semaine prochaine.